Cours Vadis, chapitre 2. Après une collation qui tint lieu de déjeuner, car lorsque les deux amis prirent place à table, les simples mortels avaient depuis longtemps achevé le prandium de midi, Pétrone proposa de faire la sieste. Il était, à son avis, trop tôt pour faire une visite. Il est vrai que certaines gens commencent à aller voir leurs amis dès le lever du soleil, se conformant ainsi à un usage qu'ils tiennent pour une vieille coutume romaine. Mais Pétrone jugeait cette coutume barbare. Les seules heures convenables sont celles de l'après-midi, et encore pas avant que le soleil ne soit passé du côté du temple de Jupiter Capitolin et n'ait commencé à éclairer obliquement le forum. En automne, la chaleur est parfois assez forte dans la journée, et beaucoup de personnes se plaisent à faire un somme après leur repas. À cette heure, il n'est pas sans agrément d'écouter le murmure du jet d'eau dans l'atrium et de s'assoupir après les 1000 pas réglementaires sous la lumière rougeâtre tamisée par la pourpre du vélarium à demi tiré. Vinicius fit bon accueil à ces justes propositions. Tout en allant et venant, ils se mirent négligemment à causer de ce qui se passait au Palatin et dans la ville, et même un tantinet à philosopher sur les choses de la vie. Puis Pétrone se rendit au cubiculum, où il s'assoupit quelques instants seulement. Une demi-heure après, il en sortit et se fit apporter de la verveine pour la respirer et s'en frotter les mains et les tempes. « Tu ne saurais croire combien cela ranime et rafraîchit, » dit-il. « À présent, je suis prêt. » Ils prirent place dans la litière qui les attendait depuis longtemps et se firent porter vers le Vicus Patricius à la maison d'Aulus. L'insula de Pétrone était située sur le flanc méridional du Palatin, tout près des Carinae. Le plus court chemin était donc de passer par le bas du forum. Mais Pétrone, désirant entrer d'abord chez l'orfèvre Idomène, prescrivit de prendre par le Vicus Apollinis et par le forum du côté du Vicus Sceleratus, au coin duquel s'ouvraient des boutiques de toutes sortes. Les colosses nègres soulevèrent la litière et, précédés par des esclaves appelés les Pédisséqui, ils se mirent en marche. Assez longtemps, tout en portant à ses narines ses mains parfumées de verveine, Pétrone garda le silence et parut réfléchir. Enfin, il dit « Une idée me vient. Si ta nymphe des bois n'est pas une esclave, elle pourrait, sans difficulté, quitter la maison des Plotius pour s'installer dans la tienne. Tu l'envelopperais d'amour, tu la comblerais de richesses, ainsi que j'ai fait pour mon adorée Chrysothémis, dont, entre nous, je suis au moins aussi fatiguée qu'elle peut l'être de moi. » Marcus secoua la tête. « Non ? » interrogea Pétrone. « À envisager le pire, la chose irait jusqu'à César, et tu peux être certain que, mon influence aidant, notre barbe d'airain serait pour nous. »« Tu ne connais pas Ligie ? » répondit Vinicius. « Alors laisse-moi te demander si tu la connais autrement que de vue. Lui as-tu parlé ? Lui as-tu révélé ton amour ? » ?»« Je l'ai vue d'abord près de la fontaine. Ensuite, je l'ai rencontrée deux fois. N'oublie pas que, durant mon séjour dans la maison des Aulus, je logeais dans l'annexe latérale réservée aux hôtes et qu'ayant le bras démis, je ne pouvais paraître à la table commune. C'est seulement la veille du jour auquel était fixé mon départ que je me trouvais, au souper, pour la première fois auprès de Ligie, mais je ne pus lui adresser une seule parole. Je dus écouter Aulus. Le récit de ses victoires en Bretagne, puis ses récriminations sur la décadence du petit fermage en Italie, en dépit des efforts que Licinius Tolo fit jadis pour l'arrêter. En somme, je ne sais si Aulus est capable de parler d'autre chose. En tout cas, ne va pas croire que nous puissions esquiver ces deux thèmes de conversation, autrement que pour l'entendre blâmer les mœurs efféminées de notre époque. Ils ont chez eux de nombreux faisans dans les volières, mais ils se garderaient bien de les manger, en vertu de ce principe que chaque faisan mangé avance le terme de la puissance romaine. Une autre fois, j'ai rencontré Ligie près de la citerne, dans le jardin. Elle tenait à la main un roseau fraîchement cueilli, dont elle trempait dans l'eau le panache pour en arroser les iris qui poussaient alentour. « Vois mes genoux. Par le bouclier d'Héraclès, je t'affirme qu'il ne tremblait pas quand des nuées de Parthe se ruaient en hurlant sur nos manipules, mais, auprès de cette citerne, ils tremblèrent. J'étais troublé comme un enfant au cou de qui pend encore la bulle. Mes yeux seuls l'imploraient, et longtemps je fus incapable de prononcer un mot. » Pétrone le contempla avec une sorte d'envie. « Homme heureux, lui dit-il, quand même le monde et la vie seraient souverainement détestables, de toute éternité il y restera un bien, la jeunesse. » Un instant après, il demanda, « Et tu ne lui as pas adressé la parole ?»« Si, je me ressaisis et lui dis que je revenais d'Asie, que je m'étais démis un bras en arrivant à la ville et que j'avais cruellement souffert, mais que, près de quitter cette maison hospitalière, je constatai que la souffrance y était plus précieuse que partout ailleurs les plaisirs, la maladie plus douce que la santé sous un autre toit. Troublée aussi, la tête baissée, elle écoutait mes paroles et traçait avec son roseau quelque chose sur le sable safran. Puis elle leva les yeux, les abaissa une fois encore vers les signes qu'elle venait de tracer, les reporta de nouveau sur moi avec une velléité de me poser une question et, soudain, s'enfuit comme une amadriade devant le plus pâteux des faunes. « Sans doute elle a de beaux yeux. » « Comme la mer, et je m'y suis noyé comme dans la mer. L'archipel, tu peux m'en croire, est d'un moins limpide azur. » Peu après, le petit Plotius accourut pour me demander quelque chose. Mais je ne compris pas ce qu'il désirait de moi. « Oh, Athénée !» s'écria Pétrone. « Ôte à ce garçon le bandeau dont Héros lui voila les yeux, si tu ne veux qu'il se brise la tête aux colonnes du temple de Vénus. » Puis, se tournant vers Vinicius, « Ô toi, bourgeon printanier de l'arbre de vie, toi, première pousse verdoyante de la vigne, c'est non pas chez les Plotius qu'il me faudrait te faire porter, mais à la maison de Gélosius, où l'on tient école pour les jeunes gens ignorants de la vie. » « Que veux-tu dire ? Et qu'avait-elle tracé sur le sable ? N'était-ce point le nom de l'amour ? Ou bien encore un cœur percé d'un trait, ou peut-être quelque chose où tu eusses pu reconnaître que déjà les satyres ont chuchoté à l'oreille de cette nymphe divers secrets de la vie? Comment n'as-tu pas regardé ces signes? Je porte la toge depuis plus longtemps que tu ne penses, répliqua Vinicius, et avant l'arrivée du petit Aulus, j'avais déjà observé avec attention les signes. Car je n'ignore pas qu'en Grèce, et à Rome aussi, les jeunes filles écrivent souvent sur le sable des aveux que leurs lèvres n'oseraient formuler. Mais devine ce qu'elle avait dessiné. Comment devinerais-je à présent si je ne l'ai pu tout à l'heure? Un poisson. Que dis-tu? Je dis un poisson. Voulait-elle faire entendre qu'il est glacé, le sang qui jusqu'à présent coule dans ses veines? Je ne sais. Mais puisque pour toi, je suis le bourgeon printanier sur l'arbre de vie, sans doute pourras-tu mieux que moi expliquer ce signe. Carissime, c'est à Pline qu'il faudrait le demander. Il se connaît en poisson. Le vieil Alpicius, s'il vivait encore, pourrait peut-être lui aussi te renseigner sur ce point, car il a mangé dans le cours de sa vie plus de poissons que n'en saurait contenir tout le golfe de Naples. La conversation s'arrêta là, car dans les rues encombrées de monde à travers lesquelles on les portait, le brouhaha de la foule les empêchait de s'entendre. Par le Vicus Apollinis, ils débouchèrent sur le Forum Romanum, où, par les belles journées, avant que se couchât le soleil, se rassemblait une multitude d'oisifs venus là pour déambuler au milieu des colonnes, colporter et apprendre des nouvelles, voir passer les litières des personnages connus, contempler les boutiques des orfèvres, les librairies, les comptoirs des changeurs, les magasins de bronze, d'étoffes de soie et de marchandises diverses, occupant les maisons en bordure d'une partie de la place du marché située en face du Capitole. La moitié du forum, sise en dessous des rochers de la citadelle, se trouvait déjà plongée dans l'ombre, alors que les colonnades des temples situés plus haut resplendissaient, dorées et lumineuses, et se découpaient sur l'azur. Celles, au contraire, qui étaient placées plus bas, profilaient leur ombre sur les dalles de marbre, et partout elles se pressaient si nombreuses que la vue s'y égarait comme dans une forêt. On eût dit que ces édifices et ces colonnes se comprimaient les uns les autres. Ils s'étageaient, s'étendaient à droite et à gauche, escaladaient les collines, se tassaient contre les murs de la citadelle, ou bien les uns contre les autres. Les colonnes semblaient des troncs d'arbres, grands ou petits, gros ou grêles, blancs ou dorés, tantôt épanouis sous l'architrave en feuilles d'acanthe, tantôt spirales de volutes ioniques, tantôt terminées par le simple carré dorien. Surmontant cette forêt, étincelaient des triglyphes colorés. Des tympans se détachaient des statues des dieux. Au fronton, des quadriges ailés et dorés semblaient vouloir s'envoler dans les airs au sein de cet azur silencieux épandu sur l'amas compact des temples. Au milieu du marché et sur les côtés roulait un fleuve humain. Des foules se promenaient sous les arceaux de la basilique de Jules César. Des foules étaient assises sur les marches du temple de Castor et Pollux ou circonvoluées autour du petit sanctuaire de Vesta, pareil sur cet immense fond de marbre à des essaims multicolores de papillons et de scarabées. D'en haut, par les degrés énormes du temple consacré à Jovioptimo Maximo, dévalaient de nouvelles vagues humaines. Près des rostres, on écoutait quelques orateurs de hasard. Ça et là retentissaient les cris des marchands de fruits, de vin, d'eau mêlée à du jus de figue, ceux des charlatans vantant leurs drogues merveilleuses, des devins, des découvreurs de trésors cachés, des interprètes des songes. Ici, le vacarme des conversations, des appels, s'augmentait des sons du sistre, de la sambuque égyptienne ou de la flûte grecque. Là, des malades, des dévots, des affligés allaient porter des offrandes dans les temples. Au milieu des assistants, sur les dalles de marbre, afin de recueillir les grains de blé des offrandes, tournoyaient des bandes de pigeons. Pareils à des taches mouvantes, bigarrées et sombres, ils s'élevaient un instant avec un retentissant bruit d'ailes, puis revenaient s'abattre dans les espaces laissés libres par la foule. De loin en loin, les groupes s'écartaient devant les litières où apparaissaient de gracieux visages féminins ou bien des têtes de sénateurs et de patriciens dont les traits semblaient comme figés et usés par la vie. La populace cosmopolite répétait leurs noms, les accompagnait de sobriquets, de railleries ou de louanges. Parfois, un détachement de soldats ou de vigiles, chargé d'assurer le bon ordre de la rue et s'avançant d'un pas cadencé, fendait les rassemblements tumultueux. Partout résonnait la langue grecque autant que la langue latine. Vinicius, qui, depuis longtemps, n'avait pas revu la ville, regardait curieux ce grouillement humain et ce forum romanum, à la fois régnant sur le flot montant de l'univers et par lui submergé. Pétrone, devinant la pensée de son compagnon, l'appela « le nid des Kyrites sans Kyrites ». De fait, l'élément indigène était en quelque sorte noyé dans cette cohue, mélange de toutes les races et de toutes les nations. On y voyait des Éthiopiens, des géants à chevelure blonde des lointaines contrées du Nord, des Bretons, des Gaulois, des Germains, des habitants du pays des Serres, aux regards obliques, ceux des bords de l'Euphrate et ceux des rives de l'Indus, avec leurs barbes teintes de couleur rouge brique, des Syriens des bords de l'Oronte, aux yeux noirs insinuants, des nomades des déserts de l'Arabie, desséchés jusqu'aux os, des Juifs à la poitrine cave, des Égyptiens au sourire éternellement indifférent, des Numides et des Africains. Puis, aussi, des Grecs de l'Hellade, possédant la ville sur le même pied d'égalité que les Romains, mais la dominant par la science, l'art, l'intelligence et l'astuce. Et encore des Grecs des îles et de l'Asie mineure, et de l'Égypte, et de l'Italie, et de la Gaule narbonnaise. Et parmi la foule des esclaves, aux oreilles trouées, ils ne faisaient pas défaut, ces gens libres, oisifs, que César amusait, nourrissait, voire même habillait, et ces autres, nouveaux venus, attirés dans la ville immense par la facilité de la vie et l'espoir d'y faire fortune. Il n'y manquait pas de marchands et de prêtres de Sérapis, palmes en main, et de prêtres d'Isis, sur l'autel de qui abondaient plus des offrandes que dans le temple de Jupiter capitolin, et de prêtres de Cybèle, porteurs des fruits dorés du maïs, et de prêtres de divinités vagabondes, et de danseuses orientales avec leurs mitres aux couleurs chatoyantes, et de marchands d'amulettes, et de charmeurs de serpents, et de mages de Chaldée, enfin de gens sans métier aucun, qui, chaque semaine, s'en venaient mendier du blé dans les greniers des bords du Tibre, se battaient dans les cirques pour s'arracher des billets de loterie, passaient leurs nuits dans les maisons délabrées des quartiers transsévérins et les journées de soleil et de chaleur sous les cryptoportiques, dans les ignobles bouges de Subure, sur le pont Milvius ou à la porte des Insulae des puissants, d'où on leur jetait de temps en temps les restes de la table des esclaves. Ces foules connaissaient bien Pétrone. Vinicius entendait sans cesse résonner à ses oreilles « Hic est, c'est lui !» On l'aimait pour sa générosité et il était devenu surtout populaire le jour où l'on avait appris qu'il était intervenu devant César contre l'arrêt condamnant à mort, sans distinction d'âge ni de sexe, toute la familia du préfet Pedianus Segondus, tyran assassiné par l'un de ses esclaves dans un moment de désespoir. Pétrone, à vrai dire, allait répétant partout que cela lui importait peu et que, si dans l'intimité il en avait parlé à César, c'était en tant qu'arbitre des élégances parce que ses sentiments esthétiques étaient froissés de cette tuerie barbare, digne non pas de Romains, mais à peine de Scythes. Néanmoins, le peuple, que ce massacre avait révolté, affectionnait Pétrone depuis lors. Lui s'en souciait fort peu. Il n'oubliait pas que ce peuple avait aussi aimé Britannicus que Néron avait empoisonné, Agrippine qu'il avait fait assassiner, Octavie qu'on avait étouffé sur la Pandataria, non sans lui avoir tout d'abord ouvert les veines dans un bain de vapeur, et Rubellius Plotius qu'on avait exilé, et Thraseas, à qui, chaque jour, on pouvait signifier son arrêt de mort. Bien plus tôt, l'amour du peuple pouvait être tenu comme mauvais présage, et son scepticisme n'empêchait pas Pétrone d'être superstitieux. Il avait deux raisons de mépriser la foule, d'abord comme aristocrate, ensuite comme esthète. Ces gens, sentant les fèves grillées qu'ils portaient à même leur poitrine, sans cesse enroués et suants, tant ils jouaient à la mora au coin des rues et sous les péristyles, ne méritaient pas, à ses yeux, le nom d'homme. C'est pourquoi, dédaignant de répondre aux applaudissements comme aux baisers qu'on lui envoyait de ci, de là, il narrêta Marcus l'affaire de Pédanius et raillait l'inconstance de cette populace, hier soulevée et applaudissant le lendemain Néron lorsqu'il se rendait au temple de Jupiter Stator. Devant la librairie d'Aviranus, il fit arrêter et descendit pour acheter un luxueux manuscrit qu'il remit à Vinicius. « C'est un cadeau pour toi, » dit-il. « Merci, » répondit Vinicius, qui regarda le titre et demanda. « Le Satyricon ? C'est nouveau, de qui est-ce ? » « De moi, mais je ne veux marcher sur les traces ni de Rufin, dont je devais te raconter l'histoire, ni de Fabricius Veiento. Aussi, personne n'en sait rien, et toi n'en parles à personne. Tu me disais que tu n'écrivais pas de vers, observa Vinicius en feuilletant le manuscrit, et je vois ici que la prose en est abondamment parsemée. Quand tu le liras, porte ton attention sur le repas de Trimalcion. Pour ce qui est des vers, j'en suis dégoûté depuis que Néron s'est mis à écrire des épopées. Vois-tu, quand Vitellius veut se soulager, il s'introduit dans la gorge une palette d'ivoire. D'autres se servent de plumes de flamand imprégnées d'huile ou d'une décoction de serpolet. Moi, je lis les poésies de Néron et l'effet est immédiat. Ceci fait, je puis les louer, sinon avec la conscience libre, du moins avec l'estomac libre. » Sur ces mots, il fit encore arrêter sa litière devant la boutique du joaillier Idomène et dès qu'il en fut terminé avec l'affaire des gemmes, il se fit porter directement à la maison d'Aulus. Chemin faisant et comme exemple d'amour-propre chez un auteur, je te conterai l'histoire de Ruffin, dit Pétrone. Mais il n'avait pas eu le temps de commencer son récit que, tournant sur le Vicus Patricius, ils se trouvèrent devant la maison d'Aulus. Un jeune et robuste janitor leur ouvrit la porte qui donnait accès dans l'ostium et au-dessus de laquelle une pie en cage les accueillit d'un retentissant « Salve !» En passant de l'ostium ou second vestibule à l'atrium, Vinicius observa. « As-tu remarqué que le portier n'a pas de chaîne ?»« Étrange maison, » répondit Pétrone à mi-voix. « Sans doute tu as ouï dire que Pomponia Graecina est soupçonnée de croire à une superstition orientale en faveur d'un certain Crestos. Il est probable que ce service lui a été rendu par Crispinia, qui ne peut pardonner à Pomponia de s'être toute sa vie contentée d'un seul mari, Univira. Il serait aujourd'hui plus aisé de trouver à Rome un plat de champignons du Norique. » Elle a été jugée par un conseil de famille. C'est en effet une singulière maison. Plus tard, je te dirai ce que j'y ai vu et entendu. Ils avaient gagné l'atrium. L'atriensis, ou préposé à sa garde, envoya le nomenclator annoncer les hôtes, tandis que d'autres domestiques leur avancèrent des sièges et placèrent des petits bancs sous leurs pieds. Pétrone, persuadé qu'un éternel ennui devait régner dans cette maison austère où il ne venait jamais, regardait autour de lui avec quelque étonnement et légèrement désappointé, car de l'atrium se dégageait une impression plutôt gaie. D'en haut, par une baie spacieuse, tombait un faisceau de vive lumière qui venait se briser sur un jet d'eau en milliers d'étincelles. Une fontaine, érigée au centre d'un bassin carré, destinée à recueillir la pluie tombant par l'orifice supérieur et appelée l'impluvium, était entourée d'anémones et de lys. Il était visible que, dans cette maison, les lys étaient en grande faveur, car on en voyait, de blanc et de rouge, par massifs entiers, ainsi que des iris saphirs aux pétales délicats et comme argentés de poussière liquéfiée. Les vases qui les contenaient étaient cachés parmi les mousses humides et des feuillages émergeaient des statuettes de bronze représentant des enfants et des oiseaux aquatiques. Dans un angle, une biche, de bronze aussi, penchait au-dessus de l'eau comme pour y boire, sa tête rongée et verdie par l'humidité. Le sol de l'atrium était fait de mosaïques et les murailles revêtues, parties de marbre rouge, partie de fresques où étaient figurés des arbres, des poissons, des oiseaux, des griffons, qui enchantaient le regard par le jeu des couleurs. Les portes qui ouvraient sur les chambres latérales étaient ornementées d'écailles de tortue et même d'ivoire. Entre les portes et adossées au mur se dressaient les statues des ancêtres d'Aulus. Partout, on sentait la solide aisance, exempte de faste, mais belle et sûre d'elle-même. Pétrone, dont la demeure était de beaucoup plus luxueuse et élégante, ne pouvait cependant rien trouver ici qui offusquât son goût. Et précisément, il allait faire part à Vinicius de cette remarque, quand un esclave, le Velarius, souleva la draperie qui séparait l'atrium du tablinum pour livrer passage à Aulus, qui, du fond de la maison, arrivait d'un pas rapide. C'était un homme déjà au déclin de la vie. La tête grisonnante mais forte, la face énergique, un peu courte, mais en revanche rappelant assez une tête d'aigle. Pour l'instant, elle exprimait quelque étonnement, voire même de l'inquiétude, causée par la venue inopinée de l'ami, du compagnon, du confident de Néron. Pétrone était trop homme du monde, trop fin pour ne pas s'en rendre compte. Aussi, après les salutations préliminaires, exposa-t-il avec toute l'éloquence et toute la courtoisie qui lui étaient coutumières qu'il apportait ses remerciements pour l'hospitalité reçue dans cette maison par le fils de sa sœur et que, seule, la reconnaissance motivait cette visite, facilitée d'ailleurs par ses anciennes relations avec Aulus. Celui-ci, de son côté, l'assura qu'il lui était agréable de l'avoir pour hôte et quant à ce qui était de la reconnaissance, il s'en trouvait redevable lui-même, encore que Pétrone n'en soupçonnât pas la raison. En effet, il ne la pouvait deviner. Vainement, il levait en l'air ses prunelles noisettes et s'efforçait de se remémorer le plus mince service rendu, soit à Aulus, soit à quiconque. Il ne se souvenait d'aucun, sinon de celui qu'il désirait pour l'instant rendre à Vinicius. Si quelque chose de ce genre était arrivé, et c'était possible, à coup sûr c'était à son insu. « J'aime et j'apprécie fort Vespasien, » reprit Aulus, « à qui tu sauvas la vie le jour où, par malheur, il s'était endormi à écouter les vers de César. » « Bonheur pour lui, plutôt, » repartit Pétrone, « car il ne les entendit pas. Je conviens cependant que ce bonheur eût pu finir en malheur. Barbe d'Airain voulait à tout prix lui mander par un centurion le conseil amical de s'ouvrir les veines. « Et toi, Pétrone, tu l'en as raillé ?»« En effet, ou plutôt le contraire. Je lui ai dit que, si Orphée endormait par son chant les bêtes sauvages, son triomphe à lui n'était pas moins complet d'avoir su endormir Vespasien. La critique est possible avec Aénobarbe, pourvu qu'il s'y mêle beaucoup de flatterie. Notre gracieuse Augusta Poppée s'en rend merveilleusement compte. Ce sont les temps, hélas, poursuivit Aulus. Une pierre lancée par la main d'un breton m'a brisé deux dents et le son de ma voix en est devenu sifflant. N'empêche que ce soit en Bretagne que j'ai passé le temps le plus heureux de ma vie. Parce qu'il était celui de tes victoires, se hâta de dire Vinicius. Mais dans la crainte que le vieux chef entreprît le récit de ses campagnes, Pétrone fit dévier la conversation. Il dit qu'aux environs de Praeneste, des paysans avaient découvert le cadavre d'un louveteau à deux têtes, que, pendant l'orage de l'avant-veille, la foudre avait arraché une pierre du temple de Luna, chose inouïe, aussi tard dans l'automne. Il le tenait d'un certain Cotta, lequel lui avait fait part de la prédiction des prêtres de ce temple, à savoir que ce phénomène annonçait la ruine de la ville, ou tout au moins la ruine d'une grande maison, catastrophe que de grands sacrifices pourraient seuls conjurer. Aulus fut alors d'avis qu'on ne pouvait, en effet, négliger de tels présages. L'irritation des dieux n'avait rien de surprenant quand les crimes dépassaient toute mesure. En ce cas, des offrandes propitiatoires devenaient indispensables. Pétrone repartit. « Ta maison, Plautus, n'est pas trop grande, bien qu'un grand homme l'habite. La mienne, à dire vrai, est trop vaste pour un si humble propriétaire. N'empêche qu'elle soit petite aussi. Et s'il s'agit, par exemple, d'une aussi grande maison que la Domus Transitoria, crois-tu qu'il vaille la peine de faire des offrandes pour conjurer cette ruine ?» Plautus ne répondit pas à la question, et cette prudence piqua même un peu Pétrone, dépourvu à coup sûr de sens moral, mais n'ayant jamais été délateur et avec qui on pouvait causer en toute sécurité. Aussi détourna-t-il de nouveau la conversation pour se mettre à vanter la maison de Plautus et le bon goût qui y régnait. « C'est une vieille demeure, » répondit celui-ci. « Je n'y ai rien changé depuis que j'en ai hérité. » La draperie qui séparait l'atrium du tablinum se trouvant tirée, la maison était ouverte d'un bout à l'autre, si bien qu'à travers le tablinum, le dernier péristyle et la salle suivante, ou l'oecus, le regard pénétrait jusqu'au jardin qui, à distance, apparaissait comme un tableau lumineux dans un cadre sombre. De là, jusqu'à l'atrium, s'envolaient de joyeux rires d'enfants. « Ah, chef, dit Pétrone, permets-nous d'entendre de plus près ce rire si franc comme on n'en entend plus guère aujourd'hui. »
Volontiers, acquiesça Plotius en se levant. C'est mon petit Aulus et Ligie qui jouent à la balle. Mais toi, Pétrone, fais-tu donc jamais autre chose que de rire ?
La vie est une farce et j'en ris, répliqua Pétrone. Mais le rire sonne ici autrement que chez moi.
À dire vrai, ajouta Vinicius, Pétrone rit plutôt toute la nuit que tout le jour.
Ainsi devisant, ils traversèrent la maison dans toute sa longueur et pénétrèrent dans le jardin où jouaient à la balle Ligie et le petit Aulus. Des esclaves, appelés sphéristae et préposés à ce jeu, ramassaient les balles et les leur remettaient entre les mains. Pétrone dirigea vers Ligie un rapide et fugitif regard. Dès qu'il l'aperçut, le petit Aulus accourut dire bonjour à Vinicius, qui, s'avançant, s'inclina devant la belle jeune fille, tandis qu'elle, immobile, la balle à la main, les cheveux ébouriffés, un peu essoufflée, rougissait. Pomponia Graecina était assise au jardin, dans le triclinium ombragé de lierre, de vignes et de chèvrefeuilles, et ils allèrent l'y saluer. Pétrone la connaissait tout en ne fréquentant pas la maison des Plotius. Il l'avait rencontrée chez Antistia, fille de Rubellius Plotius, et aussi chez les Sénèques et chez Pollion. Un certain étonnement résultait pour lui de la vue de ce visage mélancolique mais calme, de la noblesse dans l'attitude, dans les gestes, dans les paroles. Pomponia bouleversait si bien ses idées sur les femmes que, tout corrompu qu'il fût jusqu'à la moelle des os et plus sûr de lui-même que quiconque à Rome, il n'en éprouvait pas moins pour elle une sorte de respect et, bien mieux, perdait devant elle quelque peu de son aplomb. Aussi, en la remerciant des soins donnés à Vinicius, employait-il involontairement le mot « domina » qui jamais ne lui venait à l'esprit quand, par exemple, il s'entretenait avec Calvia Crispinilla, Scribonia, Valeria, Solina ou quelque autre femme du monde. Après des saluts et des remerciements, il se mit à déplorer que Pomponia se montrât si peu et qu'on ne pût la rencontrer ni au cirque ni à l'amphithéâtre, à quoi elle répondit doucement et la main posée sur celle de son mari.
« Nous devenons vieux et tous deux, de plus en plus, nous aimons la paix du foyer domestique. »
Pétrone essaya de protester, mais Aulus Plotius ajouta de sa voix qui sifflait « Et de plus en plus, nous nous sentons étrangers parmi des gens qui gratifient de noms grecs jusqu'à nos dieux romains. »
« Depuis quelque temps déjà, repartit négligemment Pétrone, les dieux ne sont plus que des figures de rhétorique, et comme la rhétorique nous la tenons des Grecs, il m'est plus facile pour ma part de dire Héra que Junon. » Ce disant, il dirigeait son regard vers Pomponia dans l'évidente intention de marquer qu'en sa présence, aucune autre divinité ne pouvait venir à l'esprit. Il se reprit ensuite à protester contre ce qu'elle avait dit de sa vieillesse. Il est vrai que les hommes vieillissent vite, ceux-là surtout qui s'astreignent à un certain genre de vie. Mais il est aussi des visages que Saturne paraît oublier. Pétrone parlait ainsi assez sincèrement, car, bien qu'étant déjà sur le retour de l'âge, Pomponia Graecina n'en conservait pas moins une rare fraîcheur de teint. Ayant la tête petite et les traits délicats, et, en dépit de sa robe sombre, de sa gravité et de son air songeur, elle n'en donnait pas moins, par moments, l'impression d'être une toute jeune femme. Pendant son séjour à la maison, Vinicius avait conquis l'amitié du petit Aulus, qui s'approcha de lui pour l'inviter à jouer à la balle. Ligie avait suivi l'enfant dans le triclinium. Sous le rideau de lierre, et tandis que de petites lueurs miroitaient sur son visage, elle apparut à Pétrone plus jolie qu'à première vue et ressemblant vraiment à une nymphe. Aussi, comme il ne lui avait pas parlé encore, il se leva, s'inclina et, dédaignant les banales formules de salutation, il cita pour elle les paroles dont Ulysse salue Nausicaa. «
Déesse ou mortelle, je te vénère.
si mortel tu vis sur cette terre, trois fois heureux ton père et ton auguste mère, trois fois heureux tes frères. » Pomponia elle-même fut sensible à la délicate affabilité de ce mondain. Quant à Ligie, confuse et rougissante, elle écoutait sans oser lever les yeux. Mais voici qu'un sourire espiègle effleura le coin de ses lèvres. On put voir se dessiner sur son visage la lutte entre sa pudeur de vierge et son désir de répondre, et ce fut ce dernier qui l'emporta. Elle regarda soudain Pétrone et riposta, en citant tout d'une haleine et presque comme une leçon apprise par cœur, les propres paroles de Nausicaa. « Étranger, tu ne parais ni un homme vulgaire, ni dépourvu d'esprit. » Et pivotant sur elle-même, elle s'enfuit comme un oiseau effarouché. À présent, c'était à Pétrone de s'étonner. À coup sûr, il ne pensait guère entendre un vers d'Homère sortir des lèvres d'une jeune fille dont Vinicius lui avait révélé l'origine barbare. Il interrogeait donc du regard Pomponia, empêché de lui répondre, parce qu'elle-même souriait de voir les yeux du vieil Aulus s'éclairer d'orgueil. Celui-ci, en effet, ne savait pas dissimuler son contentement. Tout d'abord parce qu'il aimait Ligie comme sa propre enfant. Ensuite, parce qu'en dépit de ses préjugés de vieux romain, grâce auxquels il était tenu de protester contre l'engouement actuel pour la langue grecque, il n'en considérait pas moins celle-ci comme le couronnement d'une bonne éducation. Lui-même souffrait, en son fort intérieur, de n'avoir jamais pu l'apprendre. Aussi, s'estimait-il heureux qu'un homme aussi cultivé que ce littérateur, enclin à regarder sa maison comme barbare, y eût rencontré quelqu'un qui fût capable de lui répondre dans la langue et par un vers d'Homère. « Nous avons chez nous, dit-il en s'adressant à Pétrone, un pédagogue, un grec, qui donne à notre fils des leçons auxquelles assiste la fillette. Ce n'est encore qu'une bergeronnette, mais une si agréable petite bergeronnette que, ma femme et moi, nous y sommes tous deux habitués. » Au travers du feuillage de lierre et de chèvrefeuille, Pétrone regardait maintenant le jardin et le trio qui jouait. Vinicius avait quitté sa toge et, en simple tunique, il lançait en l'air la balle que Ligie, en face de lui et les bras tendus, s'efforçait de saisir au vol. De prime abord, elle n'avait pas produit une grande impression sur Pétrone. Il l'avait trouvée trop frêle. Mais depuis que, dans le triclinium, il l'avait regardée de plus près, il estimait qu'on la pouvait comparer à l'aurore et, en connaisseur, découvrait en elle quelque chose de tout particulier. Il l'examinait toute et appréciait tout d'elle. Son visage rose et diaphane, ses lèvres fraîches paraissant créées pour le baiser, ses yeux bleus comme l'azur des mers, la blancheur d'albâtre de son front, les torsades de sa luxuriante et sombre chevelure aux reflets d'ambre et de bronze de Corinthe, et son cou dégagé, et la chute divine de ses épaules, et tout son corps souple, svelte, jeune, d'une jeunesse de mai et d'une fleur fraîchement épanouie. L'artiste et l'adorateur de la beauté se réveillaient en lui. Il estimait qu'au socle de la statue de cette Vierge, on pourrait écrire le mot « printemps ». Soudain, il pensa à Chrysothémis et retint un dédaigneux sourire. Avec ses cheveux poudrés d'or et ses sourcils noircis, elle lui parut horriblement fanée, ainsi qu'une feuille de rose jaune et flétrie. Pourtant, cette Chrysothémis, Rome entière la lui enviait. Puis il se rappela Poppée, et cette belle fameuse lui apparut, elle aussi, comme un masque de cire sans âme. Ici, dans la jeune fille aux formes tanagréennes, se révélait non seulement le printemps, mais aussi la psyché rayonnante et lumineuse à travers sa chair rose ainsi que l'éclat de la lumière à travers la lampe. « Vinicius est dans le vrai, songea-t-il, et ma Chrysothémis est plus vieille que Troie. » Alors il se tourna vers Pomponia Graecina et dit en montrant du côté du jardin, « À présent, Domina, je comprends qu'avec ces deux êtres vous préfériez votre maison au festin du Palatin et au cirque. » « Oui, dit-elle,
les yeux tournés vers le petit Aulus et vers Ligie. Le vieux chef se mit à narrer l'histoire de la jeune fille et ce que, jadis, il avait appris d'Athélius Hystère, touchant la nation des Lygiens qui vivaient dans les brumes du Nord. Les jeunes gens, ayant cessé de jouer à la balle, suivaient à présent les allées sablées du jardin et, sur le fond sombre des myrtes et des cyprès, ils se détachaient comme trois blanches statues. Le petit Aulus donnait la main à Ligie. Après s'être promené quelques instants, ils vinrent s'asseoir sur un banc voisin de la piscine creusée au centre du jardin. Presque aussitôt, l'enfant se leva pour aller taquiner les poissons dans l'eau transparente. Vinicius continua la conversation entamée tout à l'heure durant la promenade. « Oui, disait-il d'une voix basse et mal assurée, je venais à peine de quitter la robe prétexte quand on m'envoya aux légions d'Asie. Ainsi, je n'ai pu connaître ni la ville, ni la vie, ni l'amour. Je sais de mémoire quelque peu d'Anacréon et d'Horace, mais je ne pourrai, comme Pétrone, réciter des vers, surtout quand l'admiration, paralysant mon esprit, l'empêche de trouver des mots pour exprimer ce qu'il conçoit. Enfant, je fréquentais l'école de Musonius, lequel nous enseignait que le bonheur, consistant à vouloir ce que veulent les dieux, dépend donc de notre volonté. Moi, je pense au contraire qu'il en est un autre plus grand, plus précieux et indépendant de la volonté, car l'amour seul peut le donner. Les dieux eux-mêmes en sont à chercher ce bonheur. Et moi, ô Ligie, qui jusqu'alors n'ai rien su de l'amour, je fais comme eux et je cherche celle qui voudra me donner le bonheur. » Il se tut, et pendant un moment, on n'entendit plus rien que le faible clapotis de l'eau dans laquelle le petit Aulus jetait du gravier pour effrayer les poissons. Puis Vinicius se remit à parler d'une voix plus tendre et plus basse encore. « Connais-tu le fils de Vespasien, Titus ? On raconte qu'à peine adolescent, il s'est pris d'une si violente passion pour Bérénice qu'il manqua d'en mourir. C'est ainsi que je saurais aimer, ô Ligie. La richesse, la gloire, la puissance, fumée, néant. L'homme riche trouve plus riche que soi, l'homme illustre devra s'effacer devant une gloire plus haute, le puissant s'inclinera devant plus puissant que lui. Mais ni à César, ni à l'un quelconque des dieux, plus grande joie ne sera permise que celle réservée au simple mortel qui sent battre sur sa poitrine une poitrine chère, ou qui baise aux lèvres la bien-aimée. Ainsi, par l'amour, nous égalons les dieux, ô Ligie. » Surprise, en émoi, elle écoutait, comme elle eût écouté le son d'une flûte ou d'une cithare grecque. Par instant, il lui semblait que Vinicius lui chantait un chant étrange qui emplissait ses oreilles, agitait son sang et faisait palpiter son cœur de faiblesse, d'effroi, et aussi d'une ineffable joie. Toutes les choses qu'il lui disait, lui semblait-il, étaient déjà antérieurement en elle, mais elle ne les avait point comprises. Ce qui l'éveillait ainsi, elle le sentait bien, était ce qui, jusqu'à aujourd'hui, sommeillait en elle, et voici que ses rêves nuageux prenaient une forme distincte, pleine de douceur et de charme. Depuis longtemps déjà, le soleil avait tourné par-delà le Tibre et s'abaissait au-dessus du Janicule. Une lueur rouge baignait les cyprès immobiles et embrasait tout le ciel. Les yeux bleus de Ligie semblaient sortir d'un songe alors qu'elle les leva vers Vinicius. Et lui, auréolé des reflets du couchant, lui, soudain penché vers elle, lui dont les yeux frémissaient et priaient, parut plus beau que tous les hommes et que tous les dieux de la Grèce et de Rome, dont elle voyait les statues au fronton des temples. Doucement, il lui prit entre ses doigts le bras au-dessus du poignet et demanda « Ne comprends-tu pas, Ligie, pourquoi je te dis ces choses, à toi ?»« Non, » murmura-t-elle, si bas que Vinicius l'entendit à peine. Il n'en crut rien, et, pressant plus fort son bras, il l'eut attiré sur son cœur, battant comme un marteau, tant était puissant le désir qu'éveillait en lui l'adorable jeune fille, il l'eût grisée de paroles brûlantes, si, dans le sentier bordé de myrtes, n'était apparu le vieil Aulus qui s'approcha d'eux et leur dit « Le jour décline, prenez garde à la fraîcheur du soir et ne plaisantez pas avec Libitina. » « Mais, répondit Vinicius, j'ai quitté ma toge et je ne sens pas le froid. » Pourtant, la moitié du disque est déjà cachée derrière le mont, reprit le vieux guerrier. Ce n'est pas le doux climat de Sicile, où, le soir, le peuple s'assemble sur les places pour saluer par des cœurs le coucher de Phébus. Déjà, ne se souvenant plus qu'il venait d'évoquer la dangereuse Libitina, il se prit à les entretenir de ses biens de Sicile et de la vaste exploitation agricole qui lui tenait au cœur. Il rappela que souvent lui était venu le désir de se transporter dans cette contrée et d'y achever paisiblement ses jours. Celui dont la tête est blanche n'aime plus les frimas de l'hiver. Aujourd'hui, les feuilles tiennent encore aux arbres et sur la ville rit un ciel clément. Mais quand jaunira la vigne, que la neige s'étendra sur les sommets albins, quand les dieux souffleront sur la Campanie un vent qui glace, qui sait si alors, avec toute sa maison, il ne gagnera pas ses pénates champêtres. « Songerais-tu donc à quitter Rome, Plotius ?» demanda Vinicius déjà inquiet. « J'y songe depuis longtemps, » répondit Aulus. « Là-bas, on est plus tranquille et plus en sécurité. » Il vanta de nouveau ses vergers, ses troupeaux, sa maison enfouie dans la verdure et les collines tapissées de thym et de serpolet où bourdonnent des essaims d'abeilles. Mais cette note bucolique laissait froid Vinicius, trop absorbé par la pensée qu'il pouvait perdre Lygie et regardant vers Pétrone comme vers le seul être capable de lui prêter aide en ce cas. Assis près de Pomponia, Pétrone savourait le spectacle du soleil couchant, du jardin et des personnes debout près de la pièce d'eau. Le rideau sombre des myrtes faisait repoussoir à leurs vêtements blancs, dorés par l'éclat du couchant. D'abord coloré de pourpre, puis de violet, le ciel prit une teinte d'opale. Le zénith se nuança de lilas. Les silhouettes noires des cyprès s'accusèrent davantage que sous la lumière du jour. Sur les hommes, sur les arbres, partout dans le jardin, s'épandit la paix du soir. Ce calme frappa Pétrone, et plus encore l'étonna celui des êtres humains. Les visages de Pomponia, du vieil Aulus, de leur fils et de Lygie respiraient ce quelque chose qu'ils n'étaient point accoutumés de trouver sur la face de ceux avec qui ils passaient ses jours, ou bien plutôt ses nuits. Et ce quelque chose était comme une lumière, une placidité sereine résultant du genre de vie qui était ici celui de tous. Et, plein d'étonnement, il songea, lui, toujours en quête de beauté et de douceur, qu'il pouvait exister une douceur et une beauté qu'il ignorait. Aussi ne put-il garder plus longtemps cette impression, et il se tourna vers Pomponia pour lui dire « Je pense combien votre monde est différent de celui que gouverne notre Néron. » Elle leva son délicat visage vers la lueur du crépuscule et simplement répondit « Ce n'est pas Néron qui gouverne le monde, c'est Dieu !» Il se fit un silence. Dans l'allée qui longeait le triclinium, on entendait les pas du vieux chef, de Vinicius, de Lygie et du petit Aulus. Mais avant qu'ils parussent, Pétrone eut encore le temps de demander. « Ainsi, tu crois au Dieu, Pomponia ?»« Je crois en Dieu, un juste et tout-puissant, » répondit la femme d'Aulus Plotius.